Et oui, c'est bien la bande originale, et si j'en crois mon agenda, on est samedi donc. Hey, pas de Nagui ! C'est moi, Daniel Morin, qui vais vous accompagner durant cette heure avec cette sélection du meilleur de la semaine. Au sommaire, attention, Marianne Chazelle, Patrick Chenet, Céline Salette, Pierre Delavonchamp, Denis Podalydès, Tom Novembre, Christophe Malavoie, Zep et la bande, bien sûr, au grand complet. Le meilleur de la bande originale, c'est parti.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Patrick Chenet, hein, vous, ouais. C'est ça, hein,
Patrick Chenet.
Ou Luis Mariano, ça dépend.
Bah, ouais.
Dodo, Dodo. On va commencer dans les
années. Luis Mariano, Dodo.
Dans les années.
On veut pas savoir.
Dans les années 60, Patrick Chenet, écoutez.
This is the end. Beautiful friend.
Voilà, ça aussi.
Là, je vous envie d'avoir vécu cette époque.
Ah ouais.
Ah ouais.
David Bowie.
Les Doors avec The End. Quand vous réécoutez cette musique, vous êtes où? Dans une
je
chambre d'étudiant.
À la gare de Colombes, dans la maison que j'habitais, où un copain est venu un soir en me disant écoute ça. Je regarde, je vois The Doors. Ah bon? Vas-y, écoute. J'ai écouté 24 heures de suite, sans dormir. Peut-être en allant pisser de temps en temps et de justesse.
Mais c'est depuis que vous ne dormez plus alors. Vous ne dormez jamais.
Et voilà. Les Doors restera pour moi le plus grand groupe de rock de tous les temps.
Et dans ces années, Patrick Chenet, vous décrochez le premier prix de comédien du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Je me demande quel genre d'élève vous étiez.
Alors oui, c'est une bonne question, parce que j'ai essayé d'être un bon élève, j'y arrivais pas, mais j'ai essayé de faire plaisir à mes professeurs et d'être dans le moule. Et je me rappelle, après mon concours de sortie, il y a eu un article de Paul Delpech dans Le Monde qui disait Patrick Chenet, il faudra la grande carrière qu'il mérite s'il continue à se rebeller contre les directives qu'on lui donne au conservatoire. Et c'est là où j'ai compris que j'avais une espèce de subversion sans le savoir, alors que je voulais être dans le moule. Ouais, dans les clous.
Et ça se matérialisait comment, ce petit côté subversif?
Ah bah ça, malgré moi.
Oui, mais justement. C'est-à-dire
C'est-à-dire que j'en sais rien. Je ne peux pas répondre
à
cette
question. Ça vous échappait, ouais.
Simplement, on me taxait de rebelle, de subversif, de élève, révolté, etc. Sauf que j'étais le contraire. J'étais complètement... C'était malgré moi.
Anarchiste sans le vouloir.
Exactement.
fin des années 60, Marianne Chazelle, écoutez.
J'aime les filles de ces castels. J'aime les filles de chez Régine. J'aime les filles qu'on voit dans elles. J'aime les filles des magasins.
Ça vous faisait craquer la nonchalance de Dutron comme ça?
La nonchalance, les yeux, l'humour, la dérision qui était tellement rafraîchissant. Oui, j'étais très sensible à son charme, à cette voix très, très haute comme ça. C'était assez anti-musique de l'époque, hein. C'était la variétoche française. Il y avait un regard un petit peu méprisant pour tous ceux qui adoraient les Beatles, les autres groupes, les Doors, voilà.
Ouais, lui, il était très british, enfin, dans sa dégaine.
Ouais. Ouais. Puis le fait qu'il fasse une carrière aussi de cinéma, enfin, il était un personnage.
Oui, ça, vous le saviez pas encore à l'époque.
Non, mais il avait une photogénie et il avait un style, hein. Il y avait quelque chose. C'était des textes originaux qu'il chantait, c'était.
Jacques Lanzmann.
Et à cette époque.
Formidable, Jacques Lanzmann, il faut le saluer au passage.
Et à cette époque, vous croisez Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Michel Blanc, Christian Clavier autour d'un atelier théâtral. Lequel vous faisait craquer à l'époque?
Tous, s'ils avaient voulu.
Dites la vérité.
Mais il y en a un qui m'a fait plus craquer que les autres, c'est sûr. Vous connaissez.
Et oui. Et alors, ce que vous racontez qui est intéressant, c'est que vous veniez d'un univers. Plus austère, j'ai envie de dire, et qu'avec eux, vous découvrez une forme de fantaisie.
Tout à fait. Moi, je viens d'une famille chrétienne, protestante. Mon père, mon grand-père est pasteur protestant, donc avec une éducation assez stricte. Et je vais découvrir avec ces quatre garçons qui sont au lycée, oui, deux garçons et moi, je suis au cours de filles en face, une liberté, une possibilité de rire de tout, de s'amuser, de rien ne prendre au sérieux, alors que chez moi, c'était la tragédie permanente. Et ça m'a fait un bien fou, et vous voyez, ça m'a jamais quitté.
Mais ouais.
En 2009, Patrick Chenet, vous écoutiez Nino Ferrer.
J'adore.
Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement.
C'est étonnant que quelqu'un comme vous ait des goûts aussi élégants.
Enfin. Service public.
Fallait que ça sorte. Hein. Ouais.
Ça lui fait du bien.
Non, ça lui fait du bien. Moi qui suis tellement rebelle contre l'ordre établi. Non, simplement, c'est la chanson de mes enfants.
Le Sud.
Bon, ça, c'est une vieille chanson qui a 30 ans, hein, au moins.
Ouais, mais on peut l'écouter en 2009.
Ah, bah, c'est une chanson magnifique. Ouais. Et en vacances, partout, tout le temps, ils chantaient le Sud, ma fille et mon fils. Chantait le Sud tous les deux en même temps, et voilà, c'est une chanson qui est restée, qui reste toujours, que j'écoute régulièrement, que je chante même, mais pas tout de suite.
Pourquoi pas un petit
venir à N'oubliez pas les paroles. Ah, ouais.
Et dans la fin de ces années 70, Patrick, vous obtenez votre premier grand rôle au cinéma dans Les Naufragés de l'île de la Tortue de Jacques Rosier avec Jacques Villeray, et je me.
Et Pierre Richard.
Ouais, c'est ça,
et Pierre Barou.
Et tu te demandais quoi ?
Non, je me disais que c'était peut-être pas exactement la même période, mais bon, voilà, je ne sais plus dans quelle année on était.
Là, on est en 2009. Hein,
ah ouais, si bah 2009, c'était...
Tu vas aller vers d'eau
Non, moi, je suis restée collée
C'est
Jacques
Villeray.
Là, c'est les Molières. Parce que je voulais savoir comment ça se passait avec Jacques Villeray.
Jacques Villeray, c'était un type... Voilà. C'était un ami, hein, c'était un acteur formidable. Et puis alors, pour eux, je ne sais pas si... Parce que j'étais devenu copain avec Pierre Barou qui me chantait La bicyclette. Mmh. Ah, mais c'est pour ça que j'ai choisi aussi dans le.
Oui, mais on a sauté une année parce qu'on n'avait pas le temps.
Ouais. On n'a pas le temps. Et ben on va y revenir quand même.
Ça m'intéresse.
C'est ça, son côté rebelle.
Il me chantait le jour de mon anniversaire, il m'a chanté La bicyclette sur la plage.
Ah, merveilleux Pierre Barou, c'est un merveilleux personnage.
Ah, ben voilà, bicyclette. Écoute.
À bicyclette.
Tu l'auras eu qui la chante. Non, en 2009, donc Patrick Chenet reçoit le Molière pour Cochon d'Inde et Marianne Chazelle en 2009. Écoutez Michael Jackson.
C'est tout faire. Hein.
S'il n'y avait pas la moquette, je te ferais le moonwalk.
Ah, arrachez
pas la moquette.
Non, mais c'est normal qu'il soit autant payé, tant de talent, mais avec du salaire.
Normalement, oui.
Et là, ce qui est génial, c'est que vous incarnez, et là, je suis la bonne époque, dans une pièce, Goodbye Charlie, vous incarnez en fait un homme qui se réincarne en femme. Généralement, c'est le contraire.
Oui, puis c'est surtout pas une femme qui est un homme qui se réincarne en femme. Donc c'était un challenge extrêmement drôle à jouer, parce qu'il fallait d'abord que je trouve l'homme que j'étais pas, qui va devenir une femme que je suis pas. Donc voilà.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Céline, vous vous êtes retrouvée dans le film grâce à Pierre Deladonchamps, c'est lui qui, le premier à Cannes, vous a parlé de ce projet.
Ouais.
C'est fort.
C'est hyper beau. Ouais. Il m'a un peu appelé en quelque sorte comme une petite fée magique sur ce film. Ouais, et puis après, les circonstances et la chance ont fait le reste, c'est-à-dire l'actrice qui devait jouer le rôle ne l'a pas fait. Et puis j'ai rencontré André qui était un peu réticent, mais bon, qui s'est laissé aller.
Il y avait un premier casting qui avait été fait avec une comédienne qui n'a pas suivi. On sait qui elle est.
Oui, bah oui.
Donc,
c'était Christian Clavier. Voilà.
Non, c'est Adèle Exarchopoulos, mais comme c'est elle qui le dit dans des interviews,
Oui. Ah, bah je savais pas. Moi, je connais rien, je suis pas très.
Non, il faut pas le dire, Nagui.
Il faut pas le dire.
Bah si, pourquoi ? Bah si, on peut le dire, c'est Adèle.
Bah ouais.
Non, mais c'est une magnifique actrice. Après, moi, je suis quand même plus âgée qu'elle, donc c'est vrai que je pense qu'André a fait la gueule au début. Quand même.
Mais non, parce qu'en plus, vous avez vraiment le physique de l'époque.
Mais grave.
Oui, non, mais en fait...
Vous avez un vieux physique.
Très vieux physique.
Merci infiniment. Non, je dis ça pour rire, mais en vrai, après on était très heureux de collaborer ensemble. Ça s'est passé merveilleusement. On était...
Alors, puisqu'on parle de physique et puisque nous sommes d'odieux pervers, il y a beaucoup de scènes nues.
Et encore, on en a coupé beaucoup. Hein.
Alors, mais même, c'est carrément le premier plan est très suggestif, même pas suggestif, il est très précis, très naturel. On a presque l'impression qu'il était important à l'image de voir des corps, que ce soit des gueules cassées de la guerre, que la beauté de vos deux corps.
Bah oui, enfin André.
Je parle surtout de Céline. Pardon, excusez-moi, je suis un peu troublé. Quand je parlais de la beauté du corps, évidemment, c'est.
Ah bah voilà.
Le vôtre est
vous êtes
bon,
pas mal vu. Oui. On m'a dit qu'il était bien.
En garçon ou en fille. Alors,
j'écoutais, je ne sais
les
plus.
Les deux, justement,
c'est partie des enjeux du film. C'était le l'héros et le Thanatos de la question du film, c'est-à-dire l'érotisme face à la violence de la mort. Donc en fait, c'était une condition. Et je trouve que ce qui est très beau dans ce que fait André, c'est à la fois la pudeur et l'expressionnisme de ce travail avec les corps et ces scènes-là.
Et comment vous, Pierre, vous avez pensé la bascule ? Parce que entre le moment où Paul accepte d'être travesti en femme et ensuite sa libération, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à vous et dans la tête de ce personnage pour tout d'un coup aller se prostituer au bois de Boulogne ?
L'ellipse est assez grande dans le film, justement. On ne comprend pas trop les chemins qu'il prend entre le moment où il refuse et le moment où il adore ça.
Ouais.
C'est volontaire, et parce qu'André ne voulait pas s'attarder là-dessus.
Ouais.
Moi, je me suis laissé porter par les scènes qui, justement, faisaient en sorte qu'on... Au début, on le voit réticent et même énervé, et même un petit peu macho, ouais, genre je ne veux pas me déguiser en bonne femme.
Ouais.
Ah, tu viens avec moi, c'est super, on fait des trucs géniaux dans le bois.
Vous avez travaillé ça comment ?
Ben, j'y suis allé.
Au doigt. Voilà.
Mais les chemins, je les connais.
Au doigt et au bois. Et
Céline,
qu'est-ce qui se passe ?
Votre micro est ouvert, on entend tout ce que vous dites.
Mais c'est un terme technique du cinéma.
On entend tout ce que vous dites.
On travaille les personnages au doigt, ça existe.
C'est
ça,
au doigt et à l'œil.
C'est l'expression.
Nos années folles, le nouveau film d'André Téchiné. C'est la première fois l'un et l'autre que vous travaillez avec André Téchiné.
Oui.
C'est culte de travailler avec André Téchiné. Sa manière de travailler vous a marqué ?
Oui, c'est hyper impressionnant. Mais il est très exigeant, André. Moi, par exemple, je me rappelais hier soir que j'avais mis un jour et demi à dire la première réplique. C'est-à-dire le premier jour de tournage a duré un jour et demi, quoi.
Mais
et je disais une réplique, bah, parce que c'était jamais bien.
Mais alors, son exigence se traduit comment ? Par une nervosité ?
Six ans de tournage.
Il est très patient, mais il écoute les prises très fort. Donc déjà, on a une espèce de retour assez...
C'est troublant, oui.
Ouais,
vous entendez, en fait,
le
combo. Vous ne voyez pas, mais vous entendez le son.
C'est détestable, quoi, de s'entendre. Et donc, il travaille comme ça beaucoup, pas mal à la voix. Et puis, à l'endurance, quoi.
Et puis, il nous laisse faire la scène une première fois. Il enlève tout ce qui lui plaît pas, il ronge jusqu'à l'os. Une fois qu'il a l'essence, il dit maintenant, vous êtes libre.
Ouais, il travaille.
Et on trouve une liberté dans ça.
C'est bien dans sa contrainte.
Ouais.
Vous avez votre liberté.
Mais ça marche vraiment bien. Bah, c'est-à-dire que voilà, il est.
Il faut cadrer.
Il veut bien qu'on soit force de proposition. Il veut bien qu'on rajoute des choses, mais une fois qu'on a l'essence de ce qu'il ressent dans la scène et les enjeux psychologiques et physiques. Parfois.
C'est une forme d'épure à l'écran, quoi. Ouais.
La bande originale, le best-of. Sur France Inter.
La bande originale, c'est aussi du live et du bon. Attention, avec Steven Wilson, la star du rock progressif british, qui nous a offert sa version de Sign All the Time de Prince.
Just for you. Skinny man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Hurricane and it ripped the ceiling off a church and killed everyone inside. You turn on the telly and every other story's telling you somebody died. Sister killed her baby 'cause she couldn't afford to feed it, yet we're sending people to the moon. September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse, it's June. When a rugged ship explodes and everybody still wants to fly, some say man ain't happy truly until he truly dies. Oh, times. Baby, make a speech. Star Wars fly, neighbors just shine it on. But if the night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Times. Silly no, when a rugged ship explodes and everybody still wants to fly. Times.
time. Mess with your mind. Hurry before it's too late. Let's fall in love. Get married, have a baby. Call him Nate. If it's a boy.
C'était du bon, du très bon. C'était Sign O' Time, version Steven Wilson. Allez, on continue dans la grande qualité avec l'humeur d'Alison Wheeler.
Et non, un bonjour à tous. Devinez qui c'est.
Marie-Sistine.
Marie-Sistine, oui. Hein. C'est Marie-Sistine de la Manif pour tous. Elle aime péter, oui, mais elle n'aime pas la PMH. Non, parce qu'on va pas me la faire à l'envers, hein, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée à l'égalité femmes-hommes. Elle veut réviser la loi bioéthique. Je m'explique, elle veut démocratiser le droit d'accès à la procréation médicalement assistée pour tous. Ce qui signifie, elle veut que les Gouinaises aient des bébés Gouinons. Non mais où va le monde? Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas qu'une famille, c'est un papa, une maman.
Ça, c'est vrai.
Vous savez comment ça se passe une PMA, monsieur Podalides? Moi, je vais vous le dire. La PMA, on compte des spermatozoïdes vivants contre leur gré afin de les obliger à avoir un rapport non consenti avec des ovocytes. Non, le sperme n'est pas une marchandise qu'on peut vendre ou échanger comme un vulgaire kilo de patates. Non, c'est un bien précieux, c'est un cadeau de Dieu pour nous aider à nous reproduire. C'est d'ailleurs pour cela que j'en ai toujours un peu sur moi. Et puis rendez-vous compte, un enfant c'est le fruit de l'amour, du romantisme, pas une vieille branlette dans un ramequin. Dieu nous a donné des embryons pour les aimer, pas en faire des plats picards. En tant que vraie croyante, j'estime qu'un enfant doit être uniquement le fruit d'une réelle relation sexuelle. Par réelle, j'entends précisément les positions suivantes, Nagui. La pénétration classique du missionnaire, la pénétration en Amazone, le carré de l'archange Gabriel, la brouette de Nazareth avec pourquoi pas une petite claque sur les fesses de temps en temps, monsieur Podalides, ça ne mange pas de pain. Vous savez, la médecine ne nous dit pas tout sur les dangers de la fécondation in vitro. Ma cousine, elle a fait une FIV, son fils, il a 16 ans, il est encore au stade anal. Je suis sûre que le sperme n'était pas frais. C'est sûr qu'il y a une rupture dans la chaîne du froid. Il a été décongelé, recongelé derrière. Ce n'est pas du tout amusant maintenant. Quelle il veut horreur. Être youtubeur, on est tous chamboulés. Et puis, on ne peut pas accepter le sperme de n'importe qui sans savoir qui c'est. Moi, j'aurais trop peur de tomber sur celui de Daniel Morin. Dieu nous a conçus de quel... Oh putain, la science ne peut pas tout résoudre, merde! Vous savez ce qui m'inquiète le plus dans tout ça? C'est la disparition de la figure paternelle. Oui. Et puis le patriarcat sans le père, c'est arca, ça ne veut rien dire. C'est du latin, monsieur Podalides. Comment voulez-vous développer une société patriarcale avec des enfants qui n'ont pas de père? Ça n'est pas logique. C'est comme si à la Comédie française, on avait des chants pas très français. Où va le monde? Pour qui elle se prend la chiapa, là, à changer tout le cours naturel des choses? Je vous préviens qu'elle projette également de verbaliser les harceleurs de rue. Quand j'y pense, ça me fait froid dans le dos. Si mon mari m'avait pas harcelé, nous ne serions pas mariés aujourd'hui. Pour tout cela, nous allons continuer à nous battre et revenir dans la rue et nous chanterons un papa, une maman, la PMA, c'est dégoûtant!
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Évoquons la musique dans la vie de Denis Podalides. Vous écoutiez fin des années 60, début des années 70.
Autant suspend ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux.
C'est presque du slam, hein, c'est Maria Cazares qui
veut. Ben c'est ça, le slam, c'est une diction poétique, une diction soutenue d'aujourd'hui. Ça, c'est une diction aujourd'hui qui nous paraît comique, on en rit, mais c'était une façon à la fois de montrer la langue dans ce qu'elle a dans sa beauté et en même temps, ça aide à mémoriser, ça permettait de faire entrer les poèmes, la langue.
De Lamartine, en l'occurrence avec le lac.
Voilà, c'est ça. Et bon, c'est Maria Cazares qui était une très grande actrice. Là, les acteurs faisaient énormément de radio. Ils enregistraient, ils arrivaient le matin comme ça. Ils enregistraient 200 vers de Victor Hugo, 100 de Lamartine. On sent qu'elle est pas tout à fait, elle fait ce qu'elle a appris, cette diction poétique. Mais si jamais vous faisiez tous l'exercice de reprendre comme ça, eh bien, vous apprendriez très, très facilement ces vers. Et on finit par s'y attacher à cette diction. Ça paraît ridicule dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, ça infuse, ça rentre dans le cœur.
Dans les années 80, 84, 85, vous écoutiez... pointu ça. C'est la bande originale du film Rusty James de Coppola, mais c'est Stuart Copeland, le membre de
pas le nom.
Police, ouais, c'est ça.
Mais c'est ça.
C'est cette BO qui...
Ce film, je ne sais plus très bien pourquoi, il m'avait absolument fasciné. Les débuts de Mickey Rourke, je trouvais cet acteur, cette présence à l'écran, pour moi c'était le plus pur du cinéma. Il y avait je me rappelle ces plans où les nuages filent comme ça. Ce film a été imité.
C'est-à-dire qu'il y avait une esthétique et une violence en même temps dans ce film.
Oui, oui, oui. Je sais pas. You've got a fight with Wilcox at 10, Rusty James. Je me rappelle, j'ai des phrases qui me reviennent par cœur.
C'est fou, ouais.
J'ai vu plusieurs fois ce film, on a le voir entre cagneux. Je ne sais plus pourquoi. Je pense qu'il a eu pour nous ce que la fureur de vivre dans les années 58, 59 a dû avoir pour cette génération-là. Ça a été ma punkitude, peut-être. C'était le maximum de punkitude vers quoi je pouvais aller. Et la musique de Stewart Copeland, je la trouvais fascinante. J'adorais Police aussi, le groupe Police.
Ouais, bah c'était.
C'était
le
batteur, hein,
ouais, c'est exactement, ça, Stewart Copeland. Ouais.
Et à cette époque-là, vous rentrez au conservatoire dans les classes de Michel Bouquet, notamment, et de Jean-Pierre Miquel. Michel Bouquet qui est sur scène, là, bientôt, dans le Tartuffe,
mise en scène de Michel Faux. Oui, ça, ouais.
Qu'est-ce que vous avez retenu de son enseignement à lui? Parce qu'on parlait tout à l'heure de Barreau, mais j'imagine que Bouquet, ça laisse des traces aussi.
Or, Bouquet m'intimidait, parfois me faisait peur, il me fascinait totalement. Il m'avait dit un jour, tout ce que tu as là, mon petit, il nous parlait à 2 centimètres, il faut que ça descende dans la chair. Et je suis resté en plan pendant des heures, au pied de cette phrase. Il faut que ça descende. Alors, j'étais là, concentré.
L'incarnation,
j'ai beaucoup
quoi.
De choses, ouais. L'incarnation. Ouais. Ouais. Il faut que ça descende. J'essayais de tirer tout ça. J'ai mis des années en fait à comprendre cette phrase que le théâtre était une chose physique. J'étais très 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 cérébral. Mais il m'aimait beaucoup plus que je ne croyais, il me semble. Il avait un regard sur moi qui était très bienveillant.
Et vous croisez aussi le chemin de Costa-Gavras.
Oui, alors ça c'était drôle.
Mais pas inversement, c'est ça.
Et pas du tout inversement.
C'est pour ça que je l'ai présenté comme ça.
Je suis, pour la première fois de ma vie, on me rappelle après un casting. On me rappelle. On me dit, il faut que vous alliez sur le plateau à Suresnes-Mont-Valérien, tel jour, telle heure. Et j'ai dit ça à mon père qui m'a emmené en voiture. Et ça y est, je me disais, ça y est, la grande porte s'ouvre. Et j'arrive sur le plateau. Ils étaient en train de déjeuner. J'ai dit bonjour à toute l'équipe, un par un, j'ai salué tout le monde en me présentant, Denis Podalydès. Sur un plateau, les gens sont affairés, ils me répondaient gentiment, ils ne savaient pas du tout qui j'étais. Et puis même, je salue rapidement Costa Gavras, qui était affairé à au plan qu'il allait tourner. Et puis j'ai attendu dans un coin, j'attendais qu'on vienne me costumer, m'habiller. Et puis à un moment, on me dit, vous pouvez venir avec nous. J'ai l'impression que j'allais entrer dans le champ de la caméra. Et on me dit, on prend un appareil photo, clic, clic. Je suis pris en photo. Et on me dit, c'est bon, merci.
Oh.
Mettez-vous par là. Je dis, ah, ça commence par une photo. Bah oui, photo d'abord. Et puis ensuite, la caméra, je comprends très bien. J'avais salué Fanny Ardant, j'avais d'autres acteurs. Et puis j'attends. Et au bout d'un moment, un assistant me regarde et me dit, ah, vous êtes toujours là? Bah oui, j'attends. Vous attendez quoi? Ben, j'ai fait la photo et je pense que... Ah non, mais c'est bon pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Ben, on vous rappellera.
Ouch.
On vous rappellera. Oui. Ah. Mais j'entends, on vous rappellera. Je n'entends que on vous rappellera. Et donc, ça faisait déjà 5 heures ou 6 heures que j'étais sur les lieux. J'avais fait partir mon père qui, lui, voulait aussi saluer tout le monde. Gêné, je lui dis, je pense que je n'ai pas tourné tout de suite. Et puis, finalement, voyant que les affaires se passaient ailleurs, dans une pièce où je ne pouvais plus entrer, donc je suis parti et je n'ai jamais été rappelé. C'est pas que j'ai été oublié, mais c'est qu'en fait, ils avaient pris ma photo pour voir si éventuellement je pouvais jouer le rôle du petit garçon qui tournait ce jour-là, plus vieux.
D'accord, un plan qui n'a jamais eu lieu finalement dans le film.
C'est un autre acteur, c'était Rémy Martin qui avait été engagé pour jouer l'enfant.
Dans Conseil de famille.
Dans Conseil de famille, voilà, avec Fanny Ardant et Johnny Hallyday, que je n'avais pas vu ce jour-là.
Qu'est-ce qu'on apprend de ce genre de situation, de la fragilité du métier on sort
on apprend,
indemne ou...
C'est pas, on apprend qu'on n'est rien d'abord. On est tout à fait
quantité,
qu'on est vraiment peu de choses. Même presque rien, quoi. J'avais là, j'ai l'impression d'être, d'être arrivé plein, riche de mon destin qui commençait et reparti en petit fantôme.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Quand je pense à vous, à tous les deux, il y a quelque chose d'assez commun dans vos parcours, dans votre façon d'être. Si on commençait par vous, Christophe Malavoy, je dirais que vous êtes d'une grande indépendance, assez atypique en tant qu'acteur. par exemple...
Prenez le mien dans sa bouche.
Bah ouais, ouais. Vous n'avez pas d'agent.
Bien sûr, oui.
Vous n'avez pas d'agent. Vous êtes un des rares comédiens à ne pas avoir d'agent, à ne pas être représenté.
Ben j'en ai eu pendant un certain temps, des agents.
Ouais. Ça fait 20 ans que vous n'en avez plus, là, au moins.
Oui. Je me suis aperçu que ça ne servait pas à grand-chose, puisque je n'ai jamais travaillé grâce, disons, à mes agents.
Est-ce que c'est facile d'évoluer sans ça? Parce que...
Oui, je crois que c'est assez facile quand on sait
où on va
et ce qu'on veut faire. J'ai pas envie, moi, forcément, d'apparaître quoi, tout le temps au cinéma, de faire tout le temps d'enchaîner les choses. Je fais des choix dans ma vie. Mm-hmm. J'ai suffisamment d'argent pour vivre correctement. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Et surtout de cultiver une espèce d'ego et de notoriété. Donc, moi, je suis effectivement, je me sens un peu à part parce que j'ai pas envie d'enchaîner pour enchaîner, pour être présent et être toujours à l'affiche de quelque chose. Il faut prendre, je pense, en tant qu'artiste aussi du recul et du temps pour regarder comment les choses se passent, qu'est-ce qui se passe autour de vous, comment les gens vivent. Moi, j'ai du temps, je prends le temps pour l'écriture. Quand je fais quelque chose et quand je choisis de faire quelque chose, j'y vais au bout. Je joue ma vie, moi. En même temps, sur scène, j'ai le sentiment de mettre effectivement ma peau sur la table. Et là, dans cette pièce, il y a une émotion très forte. Elle n'est pas forcément facile à livrer. Eh ben, il faut y aller et j'y vais. Et c'est ça mon plaisir.
C'est devenu votre force.
Oui, en même temps, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime bien, bien la solitude.
Est-ce que ce n'est pas un défaut dans un métier de théâtre ou de cinéma qui est un métier de troupe, qui est un métier de partage
Ah, mais moi, je suis dans la troupe.
De réseau. C'est-à-dire, après, on sait que certains sont là parce qu'ils font partie de la bande d'un tel ou de la bande d'un tel et que c'est comme ça aussi qu'ils ont construit leur carrière.
J'ai peut-être manqué des choses dans ma carrière. Cela dit...
Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est est-ce qu'on peut vous reprocher
c'est
finalement.
Ce que je voulais dire. Ça
non, il n'y a rien à dire.
Jusqu'au bout, n'est pas peur.
Non, mais est-ce que vous auriez pu avoir plus, en tout cas.
Mais plus pour quoi faire. Non, moi, j'essaye d'être bien dans ma peau et d'avoir envie. Et quand je suis avec les gens, par exemple avec Tom, ça se passe très bien dans une troupe, même si on était plusieurs. J'adore l'idée de la troupe au théâtre. J'adore le théâtre pour ça. J'aimerais bien parfois disparaître.
Est-ce qu'il y a pas des beaux rôles que vous avez vus au cinéma ou au théâtre en vous disant, en ayant rêvé les jouer, en disant...
Il y a un film que
j'ai écrit, évidemment.
J'ai écrit d'ailleurs une fois à Jean-Paul Rapneau pour Le Hussard sur le Toit, qui était un roman de Giono que j'adorais et j'aurais bien aimé participer à ce film. C'était pas le cas parce que j'avais dépassé l'âge du rôle. Mais voilà, j'ai écrit à Rapneau pour lui dire que j'aimerais bien faire ce film.
Et à part donc dans ce parcours-là, ça marche aussi avec vous, Tom Novembre, en fait. Parce que très très tôt, en relisant...
Ouais, t'es très à part, toi, t'es un super à part.
Non, mais en relisant vos déclarations, il y a plusieurs dizaines d'années, en fait, vous étiez un des premiers déjà à... Mais non, mais c'est intéressant à revendiquer le partage et à vous ériger contre une société qui fait du succès une valeur première. Et vous avez jamais cessé en fait de l'ouvrir. Vous le dites, c'est votre liberté de faire part de vos colères.
Il a changé d'avis. Ouais, je suis moins expansif que certains. Ou disons que la propension à balancer des conneries à tort et à travers, c'est quand même pas mal développé. Il suffit de voir Twitter, hein, c'est quand même l'agora des imbéciles. À mon sens, je résume ça en par cette formule là. C'est peut-être ça ma liberté, c'est d'oser le dire, mais je dirais un paquet d'autres cela sont octroyés, cette liberté, vous croyez pas, ces derniers temps?
Non, mais vous, ça fait très longtemps, en tout cas.
Comme Christophe, je défends des valeurs, des valeurs qui sont plutôt celles de l'humanité, plutôt que du profit, de l'apparence et de la surface. Je pense que l'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte, plus que l'emballage. Or, au siècle de la pub, c'est la forme qui compte. et c'est un peu le décalage que j'ai avec le monde qui m'entoure. Donc voilà, je peux pas y jouer.
La liberté d'expression ne peut pas être simplement réservée à ceux à qui on tend un micro et qui ont le droit de tout dire.
Si. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir avant de parler.
J'entends. Internet et Twitter.
Cette fois,
oui,
sa langue dans la bouche.
Oui, il y a des imbéciles sur Internet, mais pas que. Il y a aussi.
Oui.
Il y a aussi des génies.
Il y a des spontanéités partout, d'accord.
Mais la spontanéité n'est pas toujours le
révélateur d'une vérité. C'est juste une vérité instantanée, personnelle, et pas forcément une généralité à laquelle on demande. Enfin, or, via les médias, on demande toujours aux uns et aux autres d'adhérer ou pas à une déclaration, ou à une vérité, ou à une réaction. Un tel dit quelque chose, l'autre répond le contraire. Alors, dans quel camp êtes-vous? C'est toujours
Ça a toujours été le cas. C'est pas les médias qui décident de ça.
Sauf que les idées se diluent, les idées fortes se diluent dans cette espèce de profusion de commentaires périphériques, à mon sens.
Mais la faute à qui? À ceux
qui
portent.
Là, on est sur un débat.
Deux secondes. Est-ce que la faute est à ceux qui portent les idées qui sont?
Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Je juge pas ça. Je commente. Je fais comme tout le monde. Et je m'octroie la même liberté que tout le monde, mais j'essaye de le faire avec davantage de parcimonie. Je pense pas être présent en permanence. Je suis pas un adepte des réseaux sociaux particulièrement. Simplement, on me pose une question, je réponds sincèrement et au nom de valeurs qui sont les miennes, qui sont celles de la solidarité, du partage, effectivement, de voir plutôt l'humain que le spirituel que le matériel, puisque le matériel on y est matin au soir.
L'être et pas la voix.
Et ça, c'est des propos qui sont cohérents dans l'itinéraire de Tom Novembre. C'est pas juste un effet de mode, c'est depuis tout
position,
le temps.
Ouais.
Pour le coup, tous les deux, avec vos itinéraires un peu différents, vous êtes bien trouvés.
Je dirais, on a la même approche, je crois, notamment de notre métier, qui est qu'on est plus intéressant par ce qu'on fait que par ce qu'on est.
Il y a un ego, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment un ego très développé. On pense pas forcément à nous tout le temps.
On y pense, mais pas que.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Allez, petite pause musique, vous en rêviez, je le sais. L'Indien, Juliette Armanet.
Flèche en opale, dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un Indien dans mon cœur. Flèche en platine, dans ma poitrine, pointe sanguine. Épaule féline, drôle de fleur, un Indien dans mon corps. C'est lui, l'amour de ma vie. Je sais que c'est lui, tout me le dit. Le jour comme la nuit, je suis à lui. Flèche une aurore dans mon décor, casque d'or au cuir sonore, drôle de bête, un Indien dans ma fête. Flèche pas farouche, fou bouche à bouche, du genre. Je t'ai empoisonné, chatte un rêve sans hésiter, mon cœur nu.
Vous êtes bien sur Inter, c'était l'Indien de Juliette Armanet. Chic, intelligent, touchant. Rien à voir, mais voilà Tanguy Pastureau.
Tous les jours, c'est comme ça, donc on s'est habitué. Moi, pour être à l'heure ici aujourd'hui, je suis parti samedi soir. Je me suis fait doubler par un pigeon qui n'avait plus qu'une aile. Ceci à cause d'Anne Hidalgo, maire de Paris, qui mène un combat acharné contre la voiture. Quand elle en voit une, elle est dans le même état qu'un Hutu qui voit débouler un Tutsi à la fête d'anniversaire de son fils. Alors, elle a commencé par piétoniser les quais de Seine, ce qui permet en semaine à 15h à quatre chômeurs en fin de droit de regarder le fleuve charrié de vieilles bouteilles de flotte, tandis que des rats dévorent une mouette morte dans un caddie rouillé. Elle a transformer Paris en film des frères d'Ardenne. Puis cet été, elle a lancé le plan vélo. Et depuis, elle débite de la piste cyclable tel un cégétiste de la merguez. Plus de 100 km de piste en 2 mois. Depuis, tous les jours, elle reçoit des lettres d'amour de Christopher Froome qui lui dit « Bébé, viens voir Cricri. Avec ce que je m'envoie dans les veines, j'ai assez de patates pour tenir 75 heures la position de la brouette à barbe. » C'est comme la brouette, mais pour hipster parisien. Elle est à fond. Si un jour elle devient maire de Monaco, le Grand Prix de F1 se fera en patinette. Seule souci. Les voies pour voitures se réduisent aussi vite que le nombre d'adhérents au Parti Socialiste. Et tout le monde est bloqué. Philippe Poutou, dans sa 205 jean de 89, Neymar, dans son Audi R8 V10 Spider, et tous s'appellent les grandes gueules de RMC pour dire que s'il croise Hidalgo, il lui colle une pompe à vélo là, il pense et l'actionne. Celle-ci, au classement des trucs que les gens n'aiment pas, est en effet troisième, juste derrière les choux de Bruxelles et l'herpès. Sauf auprès de son cœur de cible, les Parisiens, hein, où elle cartonne, parce que les habitants n'en peuvent plus de la pollution. Il y a plus de particules à Paris que dans un dîner où Nadine de Rothschild aurait invité les Villepin. Ça pique et ça pue. Quand on sort, on a l'impression de se prendre de face la laine de Depardieu en fin de journée. Donc si on ne réduit pas la place de la voiture, on va tous mourir en même temps. Or, je vous apprécie bien sûr, mais j'ai bien l'intention de vous enterrer.
Alors, Anne Hidalgo, elle en a rien à faire de toutes ces critiques.
Hein. Non, elle s'en tamponne la chambre à air. Parce que pour elle, elle a raison. C'est Macron au féminin. Tous les autres ont tort, avant tout parce qu'ils n'ont pas la chance d'être elle. Hein, la semaine dernière, elle a traité ceux qui la critiquaient de réac, puis de néo-réac. Ce sont des réacs modernes. Ils ont le dernier iPhone et draguent sur Tinder des fans de Finkielkraut. Et de facho, parce que, dit-elle, à travers elle, ce sont ses racines espagnoles qu'on vise. Voilà. Et c'est vrai qu'en 2017, le racisme anti-espagnol est exacerbé. Dans la rue, les types se font traiter de chorizo pourri. Et au moindre lac étal, vous risquez le lynchage. L'acteur Benicio del Toro n'ose même plus venir en France, ce qui laisse le champ libre à son équivalent français, Franck Leboeuf. Heureusement, Anne Hidalgo, ayant la double culture, les racistes ne la haïssent qu'à moitié, hein, jusqu'à la ceinture. Mais, dit-elle, elle est aussi détestée par les macho, puisqu'elle est une femme. Donc réac, néo-réac, facho, macho, le monde entier veut sa peau. Hein, je pense qu'elle imagine que les Illuminati, le soir venu, se réunissent cagoulés pour jouer au paintball sur sa photo. Hidalgo ajoute, c'est normal que je suscite des jalousies. Je suis une femme qui porte l'écologie, l'humanisme et dirige la plus belle ville du monde. Hein, bref, on va fondre 10 ballons d'or pour fabriquer un gros boulard d'or et le lui remettre. Alors à noter qu'hier, la guerre auto contre vélo a atteint son apogée, ah bon, puisque l'association 40 millions d'automobilistes, c'est comme 30 millions d'amis, sauf qu'on n'a pas envie de caresser un kangourou, mais un kangou tout court, a diffusé le numéro de téléphone du bureau d'Hidalgo, afin que les gens lui disent ce qu'ils pensent d'elle. Donc entre les réacs, les néo-réacs, les machos, les fachos, ça sonne 24 sur 24. Hein, comme elle est à moitié espagnole, elle leur répond « espèce de mierda, héros des prostituées, yolo sabes que j'ai raison », puis elle raccroche. En fin de journée, épuisée, harassée, elle regarde la station Vélib, tandis que Lucifer murmure à son oreille « Anne, prends ta voiture qui pollue. Si tu pars maintenant, tu peux être sortie de Paris dans 9h30. » Puis un angelot lui dit « Anne, ne sois pas égoïste. Pense au poumon de cet enfant qui, dans 10 ans, votera pour toi. Enfourche ce vélo. » Voiture, vélo, le bien, le mal, on en est tous là à Paris.
Vous pouvez pas me faire plus plaisir, Nagui, parce que déjà pour recevoir un auteur de BD, c'est la garantie que pour une fois je lise un livre en entier. Et surtout parce que Zep, je suis fan. Alors je sais, voilà, je le dis régulièrement aux invités, sauf que là c'est vrai. Preuve en est, je suis retourné chez mes parents le week-end dernier, et sur quoi je suis retombé? Sur mon exposé que j'ai refait en cinquième.
Non.
Sur titre joli.
Il est là, t'es venu avec en plus.
Bien sûr, j'avais fait tous les dessins des persos, etc. Bref.
T'es fan. Attends, passe.
Non, non, tu on fera plus tard. Finis ma chronique, on finira après. Bref.
Le truc qui est fou, c'est qu'il était jusqu'en cinquième.
Mais oui, j'avais 17 ans. C'est ça. Non, j'avais 12 ans. On est en 2002 pour vous resituer un peu. Je suis amoureux de Madame Droulers, ma prof de français, châtain, des fossettes, des yeux bleus, un parfum à la marguerite et un sacré petit cul. Et
mais ça va
grâce
pas.
À vous, j'ai eu 20 sur 20. Non, je sais pas ce qu'elle est devenue. Je l'ai recherché sur Facebook, je l'ai pas trouvé. Et grâce à vous, Zeb, j'ai eu 20 sur 20. Pourquoi? Tout simplement parce que Titeuf, c'est un vrai héros moderne. C'est grâce à lui qu'on a tous évolué. On voulait tous ressembler à Titeuf quand on était gamin. Alors pas physiquement, parce que chauve avec une mèche blonde, il y a quand même un petit côté gamin qui sort d'une chimio. Mais on voulait tous être Titeuf gamin. Non mais c'est vrai. Il fait des bombes à eau avec des préservatifs, il met des pétards dans des crottes de chien. Vous aviez qui, vous? Tintin? Sans déconner.
Mais déjà la mèche. Hein.
Bah oui, enfin bon, non, mais c'est pas la même mèche. C'est pas la même mèche. Je peux pas te laisser dire ça. Tata, ouais. Il a pas de potes. Ses seuls amis, c'est un chien et un vieux marin alcoolique. Même les enfants de la DAS, ils ont pas un entourage comme ça. Et puis au moins dans Titeuf, on assume. Ça parle du désir sexuel, mais c'est clair. Pas comme dans Tintin où on est dans un monde d'hypocrites, les cigares du pharaon, le lotus bleu, le sceptre de Toka, l'étoile mystérieuse. C'est quoi cette étoile? Chut, c'est mystérieux. Je vous passe objectif lune et cette boule de cristal et les bijoux de la Castafiore.
Tu profites de l'absence d'Albert, c'est pas cool, tu profites.
Il est pas là. Non, mais c'est vrai, Titeuf, c'est un ado comme les autres, c'est pas un petit blond prétentieux. Titeuf, il a 10 ans, et à 10 ans, tes besoins sont simples, jouer, manger, être tout le temps dehors. Bref, Titeuf, c'est un labrador. À 10 ans, il comprend rien à la politique, et en même temps, quel enfant de 10 ans comprend la politique, à part les enfants de Fillon qui étaient déjà assistants parlementaires, mais sinon, c'est vrai. Titeuf, comme les enfants de son âge, il pense qu'à assumer, il est un peu naïf, il s'engueule souvent avec ses copains, il utilise parfois des mots qu'on comprend pas. Titeuf, c'est aussi un peu un candidat de la télé-réalité. En tout cas, ça fait 25 ans que Titeuf existe. Il est toujours dans la même classe, il a toujours les mêmes potes, la même maîtresse. C'est un peu un député écolo aussi. En tout cas, merci pour le 20 sur 20 il y a 15 ans et je vous souhaite une bonne émission.
Merci.
La bande originale, Nagui sur France Inter.
T'as vraiment fait. Ouais, il a envie de voir, évidemment. Zeb a envie de voir l'exposition. Voilà,
est-ce qu'on peut se moquer un peu?
Mais bien sûr qu'on peut se moquer. C'était une époque où je voulais faire dessinateur, j'avais fait tous les persos.
Ah oui, non, mais t'avais dessiné chaque personnage.
Bah oui, parce
en mettant,
que alors, je rappelle qu'en 2002, Internet n'était pas tout à fait au point. Donc, ouais. Du coup, les impressions des personnages.
T'avais décalqué, t'avais fait comment?
Non, j'avais pas décalqué. Non, Zep peut le voir.
C'est dessiné, c'est vraiment.
Mais dans quelle branche tu peux faire des dessins comme travail?
C'était
dans
français,
une école spécialisée. Ah, d'accord,
en on était en France.
Oui, d'accord.
À l'époque.
Pas en Suisse, mais voilà. Non, mais c'est Marina ouais,
non, parce qu'il y a un petit explicatif pour chaque personnage. Ouais, bon, il y a par exemple Ramon, l'explicatif c'est Ramon.
Tout est dans le nom.
Mais voilà, c'est ça. Mais la typo et tout. Non, bravo. Et
honnêtement, ça doit faire quelque chose. Tu dois être pas. Tu fais de la vanne, évidemment. Tu fais le coq, et ainsi de suite. Ça doit être super émouvant d'être. C'est la première fois que vous rencontrez avec Zep?
Ah oui, bien sûr.
Alors, ça vous fait quel effet, Zep?
Non,
mais ce qui est drôle, c'est de voir que les BD que j'adorais gamin sont devenues très grandes aujourd'hui. J'avais vraiment deux passions, les profs, qui est devenu deux films de Pika ouais. Et Rock, et Titeuf de Zep, et de le rencontrer aujourd'hui, ouais, non, c'est très chouette.
Vous
et
travaillez papier-crayon ou plutôt ordinateur, palette?
Papier, ouais. Papier,
il faut ce contact, c'est physique aussi, au crayon. Au
oui, puis en fait, sur une tablette, on essaye de reproduire ce qu'on fait sur du papier. Donc, c'est bien si vous êtes en voyage, mais enfin, quand on est chez soi, c'est plus pratique de dessiner sur du papier.
Et la taille, est-ce que vous dessinez sur une
C'est plus grand, c'est voilà, format
A3. Toujours plus grand. Chaque carré est une page.
Non. Ah. Une page A4 et une page A3. Donc c'est le double
d'accord,
du format.
D'accord.
Mais c'est pas de plus en plus grand d'album en album. Par contre, je vais me tenir de plus en plus loin de ma page.
Et le dessin de Titeuf a énormément évolué en 25 ans au début. Il était plus.
Il était mal dessiné, faut dire.
Non, mais c'est vrai, j'ai ramené le tome 1. Et déjà, c'était en noir et blanc à l'époque. Et je te jure que.
Non, mais tu blagues ou t'as ramené le tome 1?
Non, mais bien sûr, je l'ai ramené. Mais regarde, le Titeuf d'il y a 25 ans.
Il était un peu pointu.
Ouais, c'est bien la radio comme moment là.
C'est pratique. Ouais. Franceinter.fr.
Mais donc on a un gros zizi, on est d'accord hein, sur la pochette.
Oui.
Sur non, la couverture. Il tire sur son pantalon.
Et c'était en noir et blanc.
C'était en noir et blanc.
C'est fou ça. J'avais zappé. Ouais, moi aussi. Ouais, j'avais zappé.
Ouais, mais vous bossez pas. Vous bossez.
Entre
pas,
temps, on l'a refait en couleur celui-là.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale, c'est beau. C'est bon, mais c'est encore mieux avec une petite dose de Thomas Wiesel.
Ça va, Thomas?
Ça va bien. Écoute, Nagui, ce week-end, je regardais le JT et ça parlait d'un grand discours d'Emmanuel Macron et du plus gros ouragan de tous les temps. Vous avez vu les images? Ça en fait du vent. Mais assez parlé du discours de Macron. Vous avez vu la puissance de l'ouragan Irma aux Caraïbes? C'est l'ouragan le plus dévastateur de l'histoire après la chanson de Stéphanie de Monaco. Blague à part, moi j'aimerais transmettre toutes mes pensées aux familles des victimes, tous ceux qui sont sinistrés, mais aussi ma sympathie à toutes les Irma qui ont déjà enduré des décennies de blagues sur les voyantes et qui maintenant se retrouvent avec un ouragan meurtrier sur le dos. Parce que moi quand je dis Harvey, Irma et José ont causé des dégâts, j'ai pas l'impression de parler de catastrophe météorologique, mais plutôt de décrire la dernière partouze à la cafette de France Inter. Oui, parce que maintenant on donne des prénoms aux ouragans. Voilà, c'est choisi par l'Organisation Météorologique Mondiale. T'as pas intérêt à sortir avec quelqu'un qui bosse là-bas et le larguer, hein, parce que elle dira rien pendant des années et tout à coup, paf, t'allumes la télé et l'ouragan Thomas est responsable de la mort de centaines de personnes. Ça fait une belle vengeance. C'est pour ça que c'est un gros avantage d'avoir un prénom qui n'existe pas, comme toi, Nagui. Parce que non, l'ouragan Nagui, ça n'arrivera jamais, je veux dire. Ou alors, si ça arrive, on saura directement que t'as filé l'herpès à une fonctionnaire de l'Organisation Météorologique. Et en plus,
tu apprendras, si tu avais des amis arabes, tu apprendras que c'est un prénom arabe.
Oui, mais tu m'as expliqué que c'était une contraction de deux prénoms et que ça existait
Naguib.
Pas vraiment.
Naguib.
Voilà, voilà. Donc, c'est toi qui me l'as dit. Hein. Vous avez vu aussi qu'il y a des feux de forêt gigantesques au Canada, des coulées de boue meurtrières en Afrique de l'Ouest, une mousson historique en Asie du Sud, un tremblement de terre au Mexique. Est-ce que la planète peut se calmer deux secondes là? Parce qu'au rythme où ça va, Kim Jong-un va être dégoûté. Il pourra pas détruire la planète. Elle est déjà en train de le faire toute seule. Enfin, toute seule. On l'a bien aidé quand même. Hein. Les spécialistes s'accordent pour dire que la hausse de température accentue l'intensité des phénomènes. Al Gore vient de sortir son deuxième film sur le réchauffement climatique, une vérité qui dérange deux, visiblement elle a pas assez dérangé la première fois, il va sortir la vérité si je mens qui dérange trois, qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller quoi, qu'il y en ait autant que de Star Wars, une vérité qui dérange 12, la revanche de l'anticyclone des Açores, non bah ça va pas aller en s'améliorant, Nicolas Hulot il a déclaré le pire est devant nous, et il disait pas ça uniquement parce qu'il était derrière Manuel Valls à ce moment-là, non, Hulot il est censé montrer l'exemple en matière d'écologie, mais il a avoué qu'il avait voté Benoît Hamon, donc il a quand même gaspillé un bout de papier, moi je trouve incroyable qu'il y ait encore des climato-sceptiques, comme Donald Trump qui avait déclaré il y a quelques années que le réchauffement climatique, c'est une intox des Chinois pour nuire à l'économie américaine. Puis la Irma, c'est quoi? C'est un milliard de Chinois debout sur la plage en train de souffler en direction des États-Unis. Le type, il a la peau orange, mais il croit pas au réchauffement climatique. Arrêtez! Mais c'est vraiment plus simple de se dire que c'est pas de notre faute, comme ça on a rien à changer, on sort pas de notre petit confort, on peut tous faire des efforts. Bon, je sais pas si je suis le mieux placé pour vous faire la morale, moi je fais 7 heures de TGV depuis la Suisse pour venir faire un papier de 3 minutes, mon bilan carbone est pas incroyable. Puis autour de cette table, c'est pas beaucoup mieux, on a Albert Algou qui postillonne tellement que le niveau de la mer augmente de 2 cm à chaque chronique.
C'est vrai.
Tout à l'heure, il a fait l'orthophoniste pendant 3 minutes, on a perdu la moitié du Mont-Saint-Michel. Et Nagui, faut que tu fasses gaffe, si toi tu retires une fois ton salaire en petite coupure, on est obligé d'abattre 8000 arbres en Amazonie et de chasser une tribu indigène. Leur habitat naturel.
C'est vrai.
Et fais pas rendez-vous en terre inconnue, tu vas faire péter la gueule. Et il n'y a que Daniel Morin que je tiens à féliciter. Lui, c'est exemplaire ce qu'il fait pour la planète depuis 10 ans. Il recycle les mêmes blagues sur cette antenne. Ça, ça mérite la Légion d'honneur, ça.
Je suis responsable. Voilà,
exactement. Non, mais tout fout le camp. Avant, la météo, c'était le sujet pour pas avoir à parler de trucs qui fâchent. Maintenant, c'est tellement anxiogène que si une vieille dame me parle du temps qu'il fait, je vais la supplier de parler politique.
La bande originale, le best-of. Sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale, ça continue avec un moment émouvant, charmant, mais viril à la fois. On a l'impression qu'on parle de moi. Ah bah d'ailleurs, c'est moi. Nagui.
Oui, Daniel.
Et vous, Jean que j'aime. Je dois vous l'avouer, j'ai passé une nuit difficile, très difficile.
Je suis ravi.
Non, il ne s'agit pas du énième harcèlement de Hélène, notre réalisatrice, qui, depuis qu'elle a découvert avec moi la vérité du plaisir, me colle au train comme un slip humide. Non, pas du tout. Dans mon rêve, j'étais en train de faire des courses. Pour être précis, j'étais à la recherche de souliers. Perdu dans la halle aux chaussures, je m'affairais d'un seul coup réaliser que j'étais au rayon femme. Je relève la tête pour chercher le rayon homme, et là, je tombe sur un miroir qui, me revoyant mon reflet, m'abasourdit. C'était bien moi dans ce miroir, mais... Mais j'étais maquillé comme une souillon, coiffé d'un ridicule bibi et habillé d'un fourreau moulant issu des tissus les plus élastiques, fourreau qui me couvrait du haut du téton au bas du pubis. Une vraie traînée. Choqué au départ, puis étonnamment ravi, je me mis à rire. Oui, un vrai rire de conne. Intrigué par ma plastique, je commençais à tortiller du boule comme une Shakira sous extasie, provoquant la colère des femelles alentour, mais l'enthousiasme des mâles. Mâles qui, à la vue de mes ondulations pelviennes, commençaient à transpirer de la moustache. J'étais en feu. En feu au sens littéral du terme, puisque sous l'effet volcanique de ma danse érotico-jacquimichélienne, le lycra de mon fourreau prit feu, et en un dixième de seconde, j'étais en sous-vêtements.
Un petit ensemble, Victoria's Secret, saumon, dentelle noire, culotte tanga, fendue, soutien-gorge balconnet, légèrement transparent, le modèle mi-maman, mi-pute. Ce qui devait arriver, arriva. Je me pris une main aux fesses. Ouh. Je me retourne à la vitesse d'un typhon, prêt à sermonner le mécréant au main volage. D'une réplique du style « Non mais ça va pas, colère, moi ma main c'est dans la gueule que je vais la mettre ». Mais sans que je sache pourquoi, j'ai simplement répliqué « Ouh, bonjour Apollon, c'est à toi ces grosses mains calleuses ?» Apollon, qui dans une répartie aussi chevaleresque que distinguée, me répondit « Ouais, c'est à moi, t'es bonne madame ?» Filmé, flatté par le compliment bien senti de mon chevalier, je rougis comme un scout nu devant Morandini. Puis, ma femme me sortit de mon sommeil, énervé que dans mon délire somnambule, je vide son dressing. Turlupiné par ce rêve qui, oula, je vous l'avoue, le rouge aux joues m'avait mis, j'ai immédiatement été voir mon maître et conseiller spirituel, cousin éloigné d'un célébrissime ministre de la culture, maître Danjak Lang. Bonjour, maître.
Salut, Danny.
Maître, je vous laisse.
Mets-toi à l'aise, donne-moi ta veste.
Non, c'est pas une veste, c'est mon peignoir, j'ai rien dessous.
Qu'à cela ne tienne, je te prête mes chaussons. Non.
Maître Jean-Jacques, la nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais habillé en femme dans un grand magasin.
Formidable.
Non, mais c'est un peu gênant.
Pas du tout. Moi, ça m'arrive aussi, tu sais.
Ah bon?
Mais oui, est-ce que ça t'a donné du plaisir d'être habillé en femme?
Je dois avouer que j'ai plutôt aimé.
À la bonne heure.
J'ai un peu honte quand même.
Mais non, il ne faut pas. Et quand bien même, la honte, c'est souvent le début du frisson. Tu sais, pour la fête de la musique que j'ai inventée avec mon cousin, eh bien, nous nous retrouvons avec deux de mes meilleurs amis, habillés en femmes pour former un groupe, et jouer dans les parcs, les bois, les fourrés, les talus et les bosquets.
Je savais pas que vous aviez un groupe, c'est quoi le nom ?
Les Sisters Banana Fucker, Mini Jupe Kenzo, Stiletto Louboutin, 16 cm, bustier de cuir Thierry Mugler, on est plutôt canon.
C'est quoi comme formation ?
Eh bien, je suis à la grosse caisse, Laurent Vauquier est au pipo, et Jean-Pierre Elkabach au xylophone.
Grosse caisse, pipo, xylophone, sacré trio, vous jouez quoi comme style ?
On fait pas mal de reprises jazzy.
Ah oui, grosse caisse, pipo, xylophone pour du jazz ?
Oui, je te garantis que ça envoie sa race.
Sinon, pour revenir à mon rêve, maître Jean-Jacques...
Eh bien, c'est bon signe. Ça veut dire que tu n'as pas peur de sortir des sentiers battus, du conformisme, que tu es prêt à remettre en question ton identité de genre, que ta curiosité de l'autre n'a pas de limites intuitives. Ton rêve traduit une ouverture d'esprit qui t'honore et un désir d'universalité des sexes.
Si je peux me permettre, maître, vous dites quand même de la merde.
J'en ai fait une carrière, tu sais.
Sinon, j'ai pas à m'inquiéter.
Pas du tout. Et c'est si agréable comme sensation de porter la jupe et d'avoir à la tombée de la nuit ce petit vent taquin qui vous flatte le croupion.
C'est pas faux. Merci, maître Jean-Jacques.
Mais de rien, mon lapin. Oui. Allez, viens sur mes genoux, je vais te chanter du Michel Sardou.
Oui, un peu plus tard. Merci, à demain. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et le meilleur de la bande originale aussi. Mais je vous rassure, on se retrouve lundi à 11h avec l'immense, la très grande Judith Macre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h dans Vous les femmes, l'émission préférée. Des femmes, des hommes, des enfants, des animaux de compagnie. Normal les amis, c'est moi qui la présente.